Bienvenue à l'expérience audio Simplement plein air. Cette expérience vous est rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, Simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Dans notre monde, il y a des gens pour qui le hockey est une religion. Le football, la sainte messe d'un dimanche après-midi d'hiver. Et il y a des gens qui vibrent de plaisir devant un balai. Il y a aussi ceux pour qui la chasse est un mode de vie. Chez Simplement plein air, nos chroniqueurs passionnés partagent avec vous chaque semaine leur expérience et vous transmettent leur passion. La balado-diffusion chez Simplement plein air, c'est non seulement une passion, c'est un mode de vie. Et nous voilà de retour. Cette fois, on va aller dans une belle région, une région que j'affectionne beaucoup. Vous le savez, je le répète souvent, l'Abitibi, Témiscamingue, Abitibi, Témiscamingue. On va aller rejoindre un bon ami et un chroniqueur, Monsieur Guy Larochelle. Salut Guy.
Salut.
Aujourd'hui, je devrais dire, ce qu'on va discuter, c'est un peu épineux. Peut-être qu'il y a des gens qui vont sursauter. Mais on sait que le droit de chasser, au Québec, bénéficie de l'appui législatif. Donc, c'est une loi. La chasse au Québec, on peut pas arriver sur un territoire puis dire, ben, tu sais, entraver la chasse. Puis je sais que ça se fait. Là, on est à l'aube, même dans certains endroits, la chasse à l'orignal est débutée. Moi, je vous dirais que il y a beaucoup de petites choses, puis on va en discuter ce matin. Ben, ce matin, je m'excuse de dire ce matin, là, parce que si vous nous écoutez en balado, vous savez que c'est pas le matin, vous pouvez nous écouter le matin, le midi ou le soir, là. Mais, Guy, quand on parle, justement, de, tu sais, un droit législatif au Québec, qu'est-ce qu'on veut dire par là?
Oui, ben c'est ça. J'ai fait une petite recherche, puis il existe une loi au Québec. Ça fait 17 ans qu'elle existe, cette loi-là. C'est la loi 147. En fait, là, le droit de chasser en premier, on a le droit de chasser, on a un permis, on a le droit de chasser. Par contre, la loi, elle, va plus loin. On se rend en infraction, une personne sera en infraction si elle fait obstacle à quelqu'un d'autre. Alors, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'autre de chasser, d'exercer son activité comme il l'entend. On n'a pas le droit de l'empêcher l'accès à un territoire. On parle bien de territoire public. On n'a pas le droit d'endommager le mirador d'un autre chasseur ou de faire obstacle de quelque façon que ce soit, soit en faisant du bruit, en mettant des produits qui pourraient nuire à la chasse, qui pourraient nuire à un autre chasseur. Alors ça, là, c'est grave si on va jusque-là, là.
Oui, mais là, ça semble pas. Tu sais, les agents de la faune, ça, c'est une partie qui, d'après moi, semble pas appliquée, là. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. On voit ça souvent sur certains territoires, naturellement, pour pas les nommer, la Gaspésie. Là, les gardes de chasse, les agents de la faune, je devrais dire, là, s'aventureront pas. Il y a toujours... toujours une défaite, hein? Ah, oh, ben là, t'as-tu des témoins? Ah, oh, ben là, t'as-tu menacé? Ah, oh, ben là, il y a toujours de quoi pour faire que cette fameuse loi-là soit jamais appliquée.
Oui, c'est parce que ça pourrait devenir difficile à appliquer. Mais dans le cas, souvent, ce qui pourrait arriver, c'est lorsqu'il y a des menaces, des choses comme ça. Ben là, c'est vrai, comme tu dis, ça devient ambigu. Quand on entre dans les menaces, ben là, les agents de protection de la faune, est-ce que c'est à eux autres à intervenir ou si c'est à la Sûreté du Québec? Fait que cette zone-là est un peu nébuleuse. Fait que ça devient difficile à un moment donné.
Oui, c'est une zone un peu grise. Hein?
Oui, exactement. Puis quand il y a le bris de, je ne sais pas, un bris de propriété, exemple d'un mirador, ben là, as-tu la preuve que c'est vraiment ton voisin qui a fait ça ou quelqu'un d'autre qui a fait ça? Fait que ça peut devenir difficile.
Oui, effectivement. Et comme tu le dis, tu sais, un agent de la faune est là pour faire exercer nos droits, finalement. Puis on perçoit plus l'agent de la faune comme étant la personne qui cherche des fautes qu'on dirait pas mineures, parce qu'il y a beaucoup de braconnage qui ont justement été mis à jour par nos agents de la faune suite à des enquêtes. Mais on dirait que dans certains cas, ça se fait pas, comme je l'ai dit tantôt. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Parce que finalement, une loi comme ça qui est imbriquée là, comme de cette façon-là... peut être aussi bonne que peut être nuisible, finalement, parce que, justement, les personnes qui, eux, sont dans des endroits qui chassent depuis quelques années, s'imaginent sur des terres publiques, naturellement, que les terres leur appartiennent et puis que là, ben la personne qui veut aller chasser dans ces coins-là peut pas y aller, mais on parle de territoires là, qui ont des 20, des 30, des 40, des 50 kilomètres de grandeur. Ça n'a pas de bon sens.
Oui, ça c'est vrai. Puis en plus, souvent tu vas avoir des gros groupes de chasseurs là qui se réservent du territoire comme ça d'année en année. Ça vient difficile. Ouais, comment faire le ménage là-dedans, je ne le sais pas. Je pense que les agents vont intervenir dans les cas extrêmes. Ouais. Pour le reste, on dirait qu'on laisse faire les choses. Puis on parle quand même de quelque chose qui existe depuis 17 ans. Il est arrivé des cas graves là, dans le passé, là, entre autres en Gaspésie. Là.
Oui. Oui, puis moi j'ai toujours eu pour mon dire, c'est un peu plate ce que je vais dire, là. Ça va peut-être faire sursauter quelques chasseurs. Mais c'est drôle que ce problème-là n'existe pas en Ontario. Parce que c'est des territoires qui sont à la pige et attitrés. Et dans l'Ouest canadien, c'est la même chose. Donc, le Québec, on fait toujours les choses différemment. Et puis, c'est pas pour dire qu'on les fait pas bien. Mais dans certains cas, on brime le chasseur pour que d'autres chasseurs puissent chasser. Puis ça, c'est pas bon pour la relève. Quand la relève entend des choses comme ça, bien naturellement, ça les frustre. Puis ça lui donne un goût amer. Hein? Quand tu pars avec ton fils ou avec ta fille à la chasse, puis là, ben tu veux te trouver un territoire giboyeux le moindrement, tu peux plus le faire pratiquement au Québec parce que c'est des menaces à n'en plus finir.
Oui. Je pense que Avec les droits qu'on a, là, les droits, bon, on a des droits pour les abris sommaires, on a un droit d'occupation. Je pense qu'à un moment donné, on vient mélanger les droits qu'on a, puis on les élargit. C'est pas parce qu'on a un abri sommaire qu'on a le droit au territoire, là, d'un kilomètre de rayon tout le tour du camp, là. C'est pas de même que ça marche. On dirait qu'on mélange des choses à un moment donné.
Oui. Oui, puis un kilomètre, c'est pas si pire, là, parce qu'il y en a qui en prennent, comme je te dis, 40 puis 50. Là. Ils s'installent des miradors un petit peu partout, et puis là, ils se disent, ben, mes miradors sont là, puis ça, c'est mon chum, puis ça, c'est mon chum, ça, c'est moi. Puis le trois quarts du temps, puis c'est prouvé, les personnes vont faire un tour dans ces coins-là. Dans le temps de la chasse, il n'y a jamais un chat dans ces miradors-là.
Oui.
Ça, c'est...
Puis en plus, le mirador, c'est un équipement de chasse.
Absolument.
Ça
ne
donne pas de droit sur le territoire, parce que le seul droit qui est accordé par le ministère, c'est le droit d'occupation pour l'abri sommaire.
C'est ça.
Qui est un terrain de 10 mètres par 10 mètres.
Oui. Oui,
c'est
puis,
le seul droit qu'on a.
C'est ça, parce que le mirador, finalement, est un tree stand, puis je le dis souvent, tu sais, un tree stand sur quatre pattes, là. Ni plus ni moins,
oui.
C'est ça. Puis même ça. Si, moi, ce que la première chose que je ferais, c'est que les miradors, désinstallent à la fin de la saison, c'est fini, désinstallent. C'est ça qui est supposé d'être.
C'est ça, oui.
Ça.
Le ministère, ben, il tolère ça parce que considère comme cet équipement-là faisant partie d'un équipement de chasse,
mm-hmm.
en autant qu'il n'y a pas d'abus, que ça devienne une habitation.
Oui, absolument. Hey, écoute, Guy, le temps file rapidement. On en discutera la semaine prochaine parce que c'est un sujet qui est vaste, comme on dit. Et puis, on pourra en rediscuter. Mais en attendant, toi, sur les réseaux sociaux, on peut toujours te rejoindre assez facilement.
Oui, sur Facebook, ma page Facebook, Guy Larochelle, oui.
Absolument. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez vous continuer la conversation, ben allez sur Messenger et puis allez chercher Guy et puis posez-lui des questions. Gênez-vous pas. Et puis nous, ben Guy, la semaine prochaine, on continue la conversation.
D'accord. Ben, bonne semaine.
Bonne semaine.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-simplyoutdoors.ca
Un commercial Simplement plein air. Bonjour, chers auditeurs. Mon nom est Nancy Promartin pour la chronique Simplement bouffe. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Cette semaine, on parle orignal. Ben oui! C'est bientôt la chasse, on se prépare et on vide aussi nos congélateurs. Donc, j'ai une bonne recette cette semaine à vous proposer. Donc, c'est poêlé d'orignal. La préparation est 15 minutes, cuisson 45 minutes, ce qui donne 4 à 6 portions. Préparez vos papiers crayons, je vous donne les ingrédients. Vous aurez besoin d'une livre de viande d'orignal hachée, 8 tranches de bacon fumé naturel ou celui du commerce, une cuillère à soupe d'épices à steak, un oignon jaune moyen coupé en dés, 2 grosses gousses d'ail coupées en petits dés, émincées, une boîte d'haricots noirs non égouttés, 5 mini poivrons doux de couleur ou un gros poivron doux haché finement, 4 tranches de fromage provolone fumé ou plus, c'est à votre goût, et 5 grosses pointes d'asperges préparées, cassez les extrémités dures avant de préparer. Maintenant, pour la sauce, vous aurez besoin de 1 tasse et demie de vin de cuisson, n'importe quel vin, 2 cuillères à soupe de cassonade, 2 cuillères à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs mélangée à une quantité égale d'eau pour épaissir la sauce si vous le désirez. Maintenant, pour la préparation, dans une grande poêle à feu moyen, mettre le bacon et laisser cuire à moitié en remuant jusqu'à ce que le gras du bacon commence à devenir transparent et se forme un liquide dans la poêle. Ajoutez la viande d'orignal hachée, l'oignon et l'ail et bien mélanger. Saupoudrez l'assaisonnement pour steak et remuez jusqu'à ce que la viande soit complètement brisée. Lorsque la viande est cuite, ajoutez les légumes et les haricots et remuez. Couvrir et réduire le feu à moyen et laisser mijoter. Maintenant, pour la préparation de la sauce. Sur un feu vif, mettre une casserole d'un litre et verser le vin et la sauce Worcestershire. Faire bouillir la sauce jusqu'à ce qu'elle soit réduite de moitié. Ajouter la cassonade et le beurre et laisser bouillir jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Quelques minutes environ. Versez la sauce au vin sur le mélange de viande et bien mélanger. Si vous désirez épaissir la sauce, augmentez le feu de la poêle à moyen élevé. Fouettez ensemble la fécule de maïs et l'eau dans une tasse et versez-la dans la poêle en remuant constamment jusqu'à ébullition. Continuez à fouetter jusqu'à ce que la sauce épaississe, puis réduire le feu de la poêle et laisser mijoter quelques petites minutes. Ajoutez les tranches de provolone et les asperges sur le dessus. Laissez mijoter encore 10 minutes ou jusqu'à ce que les asperges soient cuites selon vos préférences et que le fromage soit bien fondu. Voilà, c'est tout pour la recette de cette semaine. J'espère qu'elle vous plaira. Et d'ailleurs, vous pouvez accompagner cette recette soit avec un riz blanc ou des petites pommes de terre grelots sautées dans la poêle avec du beurre ou sur le barbecue. Maintenant, allons rejoindre notre amie sommelière Mélissa Gaillé qui nous a fait un accord avec la recette de cette semaine. Allô Mélissa!
Bonjour Nancy, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, le vin que je vous présente m'a fait complètement craquer. Et puis, ben comme c'est un vin passe-partout, mais avec du caractère, bien il va être parfait pour la recette de cette semaine. Alors, le vin, c'est la Colombière Les Frontons Flingueurs 2019. Donc, tout d'abord, hein, on est vraiment tout de suite attiré par l'étiquette qui est magnifique. Puis, le nom de la bouteille qui fait référence au film culte des années 60, Les Tontons Flingueurs. Film que je n'ai pas vu par ailleurs, mais qui assurément pique ma curiosité maintenant. Alors, on est en France, on est au sud-ouest, près de Toulouse. Les propriétaires sont vraiment des cinéphiles passionnés, d'où leur clin d'œil là, à ce film. Le climat ici, dans le fond, dans un climat tempéré, donc on est au sud, mais on n'est pas vraiment là, on n'est pas en Provence, donc on a quatre saisons assez distinctes, du beau soleil, mais aussi de la belle fraîcheur. L'appellation ici, c'est Fronton. C'est vraiment une appellation qui est très, très appréciée des Toulousains. Donc, c'est très consommé localement. Et le cépage utilisé est la négrette. C'est vraiment un cépage typique qui fait la fierté des vignerons du coin. Avec toute cette nouvelle vague de vignerons qui valorisent leur terroir, je trouve qu'on a accès de plus en plus à des super produits qui nous exposent à toute la diversité des régions du monde. Alors, vraiment, c'est excitant. Alors, dans notre verre, cette semaine, ce que ça donne, donc la négrette va nous donner un vin avec une superbe couleur rubis, au reflet violet, c'est bien vibrant, je dirais même des reflets un peu fuchsia, donc c'est très beau. C'est vraiment un wow pour les yeux, très invitant. Le nez est assez éclatant aussi, ça sent tout de suite les fruits, c'est bien mûr, la cerise noire, la groseille entre autres, et on a aussi les épices sucrées qui montent, donc la cannelle et le poivre. Et dans la bouche, là, vraiment, c'est du bonheur. Donc, c'est un vin qui est joyeux, c'est rond, c'est gourmand, mais ça manque pas d'attaque. D'où probablement le nom, là, les frontons flingueurs, là, où on voit même la gâchette sur l'étiquette. Donc, vraiment, là, on a juste comme envie d'être heureux et de profiter du moment lorsqu'on boit cette bouteille. Alors, c'est pas mal pour une bouteille à 20,85 $. Il n'y a pas tant de complexité dans cette bouteille, mais elle est vraiment parfaite. Donc, que ce soit en début de soirée, en mangeant ou en fin de soirée, vraiment pour toutes les occasions, là, je vous le dis, ce sera votre complément. La recette de la semaine me donne un peu cette impression-là, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment un bon accord. Alors, on a une poêlée, hein, donc c'est souvent simple comme recette, mais tellement satisfaisant. Donc déjà, hein, beaucoup de saveurs avec les oignons, le poivron, le bacon, donc qu'on fait revenir. On a les épices à steak, la sauce Worcestershire. Toujours plaisant à dire ce mot. Donc déjà, là, c'est bien gourmand comme plat. Et à ça, évidemment, s'ajoute l'orignal. Donc le vin sera vraiment en équilibre parce qu'il y a suffisamment de matière de par sa générosité pour venir accoter la viande. Les tanins sont quand même super doux. Donc c'est parfait puisque la viande ici, elle est hachée. Donc on est donc c'est plus doux, hein? Donc plus douce dans la saveur, dans la texture, et ça va souvent être moins gras aussi que, disons, une pièce de viande comme un steak là, où on aurait vraiment des morceaux de gras. Donc on a aussi l'accord entre les épices qu'on va retrouver dans le vin, donc la petite touche un peu sucrée des épices et la touche fumée qui vient du bacon et du fromage qui va vraiment être intéressante. Encore une fois, on a le fromage et le fait que le vin soit très fruité aussi, donc le côté juteux qui ressort là, vraiment de la belle saveur de cerise, ça va super bien avec le fromage et ça va aussi venir s'unifier avec le goût du plat et de sa sauce. Donc, on a quelque chose de juteux et de savoureux. Alors, on est vraiment dans le bonheur. Je vous le dis, même les haricots noirs vont être en accord parce que c'est aussi quelque chose qui a une belle densité dans le goût et dans la texture, tout comme le vin. On a un petit quelque chose même d'olive noire, donc ça peut un peu nous rappeler là, cette texture-là avec les haricots noirs. Alors, dépêchez-vous d'aller en acheter. Mettez-vous une note là, s'il n'y en a pas près de chez vous là, pour en avoir au prochain arrivage. Je suis certaine que ça va devenir un produit qu'on va toujours avoir maintenant à la SAQ parce que c'est grandement, grandement un coup de cœur. Alors, présentement, il en reste pas mal dans la sac un peu partout. Donc, vous devriez en trouver. Donc, je vous le redis, la Colombière, les frontons flingueurs, c'est bio aussi. Alors, on aime ça. C'est du 2019 présentement et c'est à 20,85 $. Donc, je vous souhaite une bonne dégustation. C'était Mélissa Goyer.
Et Nancy Promartin pour la chronique Simplement Bouffe. Alors, on vous souhaite bonne dégustation, bon appétit, bonne semaine et à la prochaine.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Et nous voici de retour à l'émission Simplement plein air ou à la balado Simplement plein air, dépendamment de la façon dont vous nous écoutez dans vos oreilles. Et avec moi, ben, on va se gâter un petit peu. On va aller parler avec M. Marc Prince de la boutique Peau Nature Rouyn-Noranda. Salut Marc.
Salut Guy.
Hey Marc, la chasse à l'orignal ici en Abitibi, mon homme, on est pratiquement dedans. Mais on a beaucoup de rappels à faire, hein, parce que il y a encore des gens qui, je dirais même, prennent des chances, hein, qui n'essaient pas leurs armes et puis qui partent en chasse.
Absolument, surtout, là, c'est sûr que les armes à feu là, font partie de ça aussi, là, mais on va parler un petit peu des arbalètes puis des arcs. Là, encore dans cet temps-ci, j'ai des gens qui m'emmènent une machine là, à faire réparer. Ça veut dire que c'est des gens qui ont ouvert le coffre qui sont aperçus que les cordes étaient brisées ou les tranches-fils défaites ou peu importe, le lame de chasse t'as pas en état. Fait que c'est comme ça veut dire qu'ils n'ont pas tiré de l'été. Là, ça, je trouve ça un petit peu négligeable de leur part. Là, mais parce qu'à l'arc et à l'arbalète, il faut vraiment faire de la pratique. C'est sûr que l'arbalète, c'est un petit peu moins demandant puis ça ressemble beaucoup à l'arme à feu. Mais à l'arc, là, c'est pas le genre d'arme qu'on va sortir deux semaines avant que la chasse arrive pour faire de la pratique. Mettons, il faut y aller à fond là, plus avancé.
Oui, puis ça, quand on parle à l'arc, on parle même pas d'arc traditionnel, hein, là, parce que l'arc traditionnel requiert encore plus de pratique.
Exactement, c'est sûr. L'arc traditionnel, là, ça demande beaucoup, beaucoup de pratique. Là. L'arc à poulie qu'on connaît aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus facile d'apprentissage, mais quand même, là, ça prend beaucoup de pratique là, pour faire des shots mortels. Là.
Oui, c'est ça. Puis ça, ben, en parlant de shots mortels, on va y aller avec un petit éclaircissement là, parce que on voit souvent des gens qui disent « Ah, moi, écoute, j'écoute Facebook, pas Facebook, mais YouTube. Je vois des vidéos que les gars, ils tirent à, pratiquement là, à, mon Dieu, à 100 verges. C'est trop, pas 100 verges, non, à 150-200 pieds, là, ça commence à faire loin. Puis...
Et c'est quand même des bonnes shots, là. Mettons, moi, en tout cas, je préconise à l'arc ou à l'arbalète. Il faut s'entendre que l'arbalète, c'est pas une arme qui est plus efficace qu'un arc.
C'est ça.
Clair tout de suite, là, il y a beaucoup de gens, des fois, qui arrivent au magasin, puis la première question qu'ils nous demandent de l'arbalète, c'est quelle la plus grosse. Les autres, ils veulent avoir ce qui roule le plus, qu'est-ce qu'il y a le plus de pression qu'il peut avoir sur une arbalète. La raison, c'est laquelle, c'est qu'ils veulent tirer des shots, là, des affaires comme des 200, 250, puis j'en ai même déjà entendu qu'ils veulent aller chercher ça à 300 pieds. Là. C'est ouais. Vraiment pas des armes qui sont appropriées pour ça. Là.
Non. Non, puis même la meilleure des arbalètes... Tu sais, l'arbalète est une arme quand même, là, même si, bon, ça ressemble à une arme, c'est quand même une arme de proximité.
Exactement. Puis, il ne faut pas oublier aussi, là, quand on veut faire le rentrer là, dans le trip, comme on peut dire, là, en bon français, là, de la chasse à l'arc ou à l'arbalète, c'est parce qu'on veut faire une chasse rapprochée.
C'est ça.
On veut vraiment essayer de traquer le gibier le plus proche possible. Là. Moi, en tout cas, j'aime plus me faire compter une chasse d'un client qui me dit qu'il a tiré son orignal à 10 ou 12 mètres ou même 15 mètres que celui qui me dit qu'il a pris une chance et qu'il a tiré ça comme à 45 mètres puis la première flèche a tombé pratiquement à terre puis il s'est réessayé avec une autre flèche. Des fois, il y a des gens qui ont quand même la chance de le récolter, là, mais c'est pas la bonne façon de faire.
Oui, non, c'est ça. Puis même on l'a vu, on a entendu parler... T'sais, pour avoir une belle précision sur un orignal, tu dirais combien de verges environ pour une bonne arbalète, là? Le maximum, là, vraiment, là. Puis ça, c'est pour un gars qui aurait pratiqué puis qui aurait vraiment, là, une maîtrise totale de son arme. Puis ça, c'est très peu, d'ailleurs, là. Mais tu dirais à combien de verges environ?
Ben moi, personnellement, en tout cas, je dirais là, que si toutes les conditions sont idéales, mettons qu'on parle qu'il n'y a pas de branches, il n'y a pas de vent, l'orignal est vraiment ce qu'on, de côté, ce qu'on dit broadside, là, que ce soit avec l'arc ou l'arbalète, là, je dirais un maximum de 40 mètres là, si on veut faire un job le propre, là, c'est pas mal, ce serait pas mal le maximum que je conseillerais aux gens de le faire. Mais il faut vraiment bien tirer aussi à 40 mètres, là,
c'est ça.
Il faut y aller selon notre expérience puis notre capacité. Là. C'est sûr que si on prend, mettons, genre, là, je ne veux pas partir de guerre de clocher, là, mais si on prend genre une femme qui va tirer son arc à 40 livres, on sait que 40 livres pour un arc, c'est la pression minimum pour aller au gros gibier. À ce moment-là, à 40 livres, on va peut-être plus là, se restreindre là, à des distances comme 25 ou 30 mètres.
C'est ça. Puis à 30 mètres encore là, à 40 livres, faut vraiment que tu aies une bonne pointe là, pour aller déchirer là-dedans parce que je te dis que 30 mètres, c'est quand même une bonne distance. On parle de 93 pieds.
Oui, c'est ça, c'est une bonne shot. Puis c'est comme je dis souvent aux clients, s'il y a une place où ce qu'il faut pas penser, économiser, c'est vraiment à l'achat de pointes de chasse.
C'est ça.
Ne pas acheter des pointes de chasse, là, genre, là, je ne donne pas de nom de magasin à rien, je veux pas faire de discrimination. Sauf que ça prend des pointes de chasse là, qui vont être résistantes. C'est l'épaisseur des lames, des pointes de chasse qui vont être souvent soit en acier chirurgical ou carrément en stainless. Puis quelque chose qui va être résistant. Là. Soit il va dans des marques qui sont reconnues. Avec des noms là, que les gens connaissent, mais normalement, on ne va pas se tromper. Puis on sait que dans les pointes de chasse, on a deux mondes là-dedans. Il y a la pointe rétractable, la pointe fixe, puis aujourd'hui, on a même la pointe hybride. C'est une pointe que souvent va avoir deux lames fixes avec deux autres lames qui vont être mécaniques. Dépendant du gibier qu'on va chasser, puis de la façon, l'expérience qu'on peut avoir, mais on peut faire un choix judicieux sur ces pointes de chasse-là.
Oui, c'est ça. Puis y a des gens qui nous disent, c'est ouais, mais tu sais, c'est difficile parce qu'on peut pas pratiquer avec nos lames de chasse, nos pointes de chasse. Oui, on peut, c'est sûr, allez pas sur un endroit où vous allez avoir là. Écoutez, vous allez faire un parcours là de 3D là, mais vous pouvez quand même pratiquer. Puis c'est même très suggéré de le faire, de pratiquer avec vos lames de chasse. Là.
Absolument.
Aux pointes de chasse, de vrai dire.
C'est vraiment, vraiment important parce que, mettons, souvent, il y a des pointes de chasse qui ne vont pas faire le vol auquel on s'attend. Fait qu'il faut pratiquer avec les pointes de chasse. Il y a des produits qui sont vendus, mettons, dans les magasins pour faire exactement, pour vraiment effectuer des tests avec des pointes de chasse. Il y a d'autres choses qu'on peut vous suggérer aussi. Là, vous venez nous voir en magasin. C'est pour se faire des paillassons auxquels on peut tirer les pointes de chasse sans endommager la coupe. Il y a même des produits qui se vendent aussi pour aiguiser les pointes de chasse. Parce que souvent, c'est un petit peu malheureux, mais il y a souvent des compagnies, même si la lame de chasse est faite forte, des fois, c'est l'aiguisage reste à désirer. Fait que souvent, un petit aiguisage de plus, là, ça ne nuit pas. Là, parce qu'on sait que l'abattage d'un gibier, ça se fait pas comme une carabine, c'est pas la force de frappe. C'est l'énergie cinétique, puis le gibier va mourir par hémorragie et non par force
par
de
impact,
frappe.
C'est ça. Puis même, on a une belle anecdote, une bonne anecdote, je devrais dire, à la chasse à l'ours avec une pointe qui manquait. Pointe neuve, mais pas aiguisée. On l'a vu, notre ami Olivier Édouard là, a eu la malencontreuse chance là, de manquer. Il ne l'avait pas manqué. Si la pointe était arrêtée plus aiguisée, il l'avait. Mais écoute, Marc, si on veut te rejoindre, si on veut encore continuer à discuter ou si on veut naturellement aller passer en boutique, pourrais-tu nous rappeler les numéros et les façons de faire?
Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre, mettons, par téléphone au 797-230 ou passer directement en magasin. On est sur l'avenue principale. On n'est vraiment pas compliqué à trouver. Je n'ai pas l'adresse de mémoire. Il me semble que c'est le 59 principal, je ne me trompe pas. Mais vous allez voir, c'est très, très facile à trouver la boutique. Ou vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook si vous avez des questions là, par Messenger, là, très facile et accessible. Ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Mais comme je disais tantôt en début d'émission, négligez pas vos armes. Faites-les vérifier puis pratiquez en masse avant d'aller à la chasse.
Oui, absolument. Écoute, Marc, nous, bien naturellement, on va se rejoindre dans deux semaines. On va rejaser chasse parce que là, on va être pratiquement dedans. Oui, monsieur, oui, ça va être le cas. Donc, écoute, passe un bon deux semaines puis on se rejase.
Parfait, Guy.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca
À commercial, simplement plein air.
Salut tout le monde, on est de retour à l'émission Simplement plein air. Que vous nous écoutiez en balado ou de dos au boulot. Si vous êtes au boulot, faites attention parce que vous pouvez nous écouter en balado lundi, mercredi et vendredi. Et oui, on est en balado-diffusion. Allez nous chercher un peu n'importe où là, sur vos réseaux, sur votre, je pourrais dire quoi, votre méthode de recherche préférée, Google, Bing, Yahoo, faites simplement plein air, un petit défi que je vous fais comme ça en passant. Et avec moi, Chantal Bellemare. Salut Chantal.
Bonjour Guy.
Hey, écoute, c'est tellement plaisant, ça fait un petit bout, hein?
Oui, ça fait un petit bout, effectivement, puis c'est le fun là, de se reparler ce matin, ça me fait plaisir.
Oui, puis écoute, on est à l'aube des grandes chasses, naturellement. Et puis là, ben, on sait qu'une chose qui est importante pour le chasseur, qui devrait être un must toujours pour le chasseur, c'est d'avoir en sa possession le numéro de téléphone d'un conducteur ou d'une conductrice de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, parce que c'est important. Et on va en discuter plus amplement parce que, écoute, on connaît ta passion. Qu'est-ce qu'il faut faire, là, Chantal? On vient de tirer un animal, on ne sait plus quoi faire, on pense qu'on a manqué notre shot, on veut partir après l'animal, peut-être pas les bonnes choses à faire. Hein?
Non, effectivement, Guy, puis tu l'as bien dit, au fil des années, on a bâti ce document-là, on l'a appelé 10 conseils pour chasseurs avant de partir à la recherche de leur gibier. Le principe, c'était, on se disait, c'est tout. Les chasseurs du Québec pouvaient lire cette feuille-là avec les 10 conseils avant de partir à la chasse. Le jour où ils auraient besoin d'un conducteur, ou même pour eux, quand ils font leur propre recherche, ça faciliterait beaucoup là, le travail. Fait que si on peut prendre quelques instants, je peux vous énumérer les conseils. Oui, puis vous allez voir, c'est du gros bon sens. Mais que des fois, dans l'euphorie du moment, on met de côté puis on fait pas.
Oui, c'est ça. On est tellement nerveux, mais c'est des choses qu'on devrait... Autant qu'on va ajuster notre arbalète, on va tirer avec notre arc, on va ajuster notre carabine, notre télescope sur notre carabine, on va tirer avant, ça devrait être un réflexe d'aller lire ces conseils-là, puis tu nous diras où on peut les trouver aussi, mais j'aimerais ça que tu m'en énumères. Là.
Parfait. Donc, si on y va avec le départ, on dit, quand vous êtes en train de mirer votre gibier, que ce soit un chevreuil, orignal ou ours, prenez note de la réaction que le gibier va avoir au moment qu'il reçoit l'impact. Parce que cette réaction-là, nous, ça nous parle en tant que conducteurs de chiens de sang dans nos analyses d'indices de blessure. Donc, quelle réaction aura fait le gibier quand il aura reçu la balle ou la flèche? Si vous le retrouvez, tant mieux, ça ne sera pas important. Mais si on ne le trouve pas, nous, ça devient un élément super important dans notre analyse. Ensuite de ça, on dit, deuxièmement, mettre un ruban à l'endroit exact où était le gibier lorsqu'il a été atteint. Donc, souvent, on se dit, ah, il était là vis-à-vis de telle épinette. Puis quand on débarque de la cache, là, l'euphorie embarque, quelqu'un vient nous rejoindre, puis on n'est plus capable de savoir c'était quelle épinette. Quand il est mort à 50 pieds, 100 pieds, c'est pas grave. Mais quand nous, on arrive, c'est important de savoir il était où, le gibier. Exact. Ensuite de ça, on dit mettre des rubans tout le long de la fuite du gibier. Parce que souvent, les gens, on pense mettre des rubans quand on trouve du sang. Mais dans la vraie vie, nous, on se rend compte en tant que conducteur qu'il y a 50 % des gens qui ne mettent pas de ruban quand ils font la recherche de le gibier. Donc, si on revient à la base, on trouve du sang, on met un ruban, on met un papier de toilette, on met quelque chose, tu sais, là.
Oui, il faut absolument, comme tu le dis, tu sais, l'euphorie, hein, d'avoir tiré, d'avoir atteint l'animal, on débarque de là. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, moi, j'attends un arbre. On attend peut-être pas tout à fait une heure. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement nerveux là, que ça descend. Je suis sûr qu'il est à terre. Puis là, ils se rendent à l'endroit, comme tu te dis, ah, je pense que je l'ai tiré là, là. Attends un peu. Étais-tu vraiment là, Jerry? Non, c'était plus par le bas. Ouais, mais faut faire attention. C'est des bons conseils. Et puis, écoute, vas-y, je suis certain que tu as d'autres bons coups. Oui, continue.
On dit aussi mettre un ruban au dernier endroit où on a vu le gibier. Parce que je vous donne un exemple. On tire le gibier vis-à-vis l'épinette. Il fait un 100 pieds qu'on est capable de voir. Puis après, il rentre dans le bois. Bien, on veut un flag où il est rentré dans le bois, idéalement. Parce que nous, ça, c'est notre premier trajet de la recherche. Donc, tu sais, souvent, si c'est un territoire très giboyeux ou peu importe, quand on a exactement l'endroit où le gibier était, ben le chien, lui, s'imprègne tout de suite de cette odeur-là quand on arrive. On n'a pas à démêler toutes les odeurs. On est capable de dire, le gibier était là, il est rentré dans le bois-là. Et ça facilite le travail du chien puis du conducteur.
Exactement.
Ensuite, quand on est à l'arc ou à l'arbalète, vous allez trouver ça drôle, mais il y a des gens qui, parfois, lavent leurs flèches. Mais faut pas la laver tout de suite, faut pas l'essuyer. Gardez-les, mettez-les de côté si jamais on a besoin d'aller vous aider. La flèche, c'est une mine d'or d'informations pour nous autres. Fait que jamais laver la flèche, puis idéalement, la laisser où est-ce que vous l'avez trouvée. Et nous, ça nous donne un indice de l'angle du gibier. Tout ça, c'est dans l'idée que si on a besoin d'aller vous aider, si tout le monde fait ça, on vient de gagner 50 % d'efficacité dans notre recherche. Et en lien avec la flèche, à l'endroit où le gibier se tient quand on le touche, souvent, il y a des indices qui vont se déposer là, du poil, du sang, des morceaux d'os. Donc, prenez l'attention de regarder. Y a-t-il une touffe de poil? Oui, parfait. Quand vous allez avoir besoin d'appeler un conducteur, si vous êtes capable de dire, oui, j'ai la flèche, j'ai trouvé du poil, tu sais, déjà là, on vient de mettre toutes les chances de notre côté. Puis aussi, ça met le chasseur en mode, on part pas à courir après l'orignal ou après le chevreuil, on se met en mode, on analyse un peu ce qu'on a fait, là, tu sais, là.
Oui, puis ça, c'est important, Chantal, parce que finalement, tu sais, on sait que c'est un investissement, une chasse au gros gibier. On part et puis on manque pas d'informations, mais l'adrénaline qui est en nous à ce moment-là peut nous faire des erreurs. Donc, c'est important hein, de prendre le temps. Comme tu dis, toutes ces petites choses-là vont faire que quand vous autres, vous allez arriver sur le terrain, ben my gosh, ça va vous faciliter la tâche. Écoute, il nous reste encore un bon 2 minutes, si tu veux y aller.
Parfait. On a presque terminé parce qu'on arrive à la période où ce que là, on est en train de chercher notre gibier. Il n'est pas tombé mort devant nous. Donc, on avance sur la trace du gibier. Dès qu'on trouve du sang, comme je l'ai dit tantôt, on se met un petit repère, un papier de toilette, un ruban. Et si on arrive, puis il y a comme une grosse flaque de sang tout d'un coup, nous, on appelle ça une couche, une reposée debout. Le gibier n'est pas là, mais il y a comme un indice qui s'est arrêté là. Là, dites-vous qu'en théorie, dans toutes vos années de chasse, le gibier il était mort dans cette flaque-là. Mais cette fois-là, s'il n'est pas là, bien, ça sera peut-être l'année où vous aurez besoin d'un conducteur de chien de sang. Donc, on met deux rubans, puis idéalement, on arrête, puis on appelle un conducteur pour dire, voici, j'ai tiré, j'ai fait ça, 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 et là, j'arrive, il y a ça. Donc, à ce moment-là, si on arrête parce qu'on a relevé le gibier, qu'on le voit ou qu'on le voit pas, parce qu'on a un indice, c'est là que le travail du conducteur et son chien vont entrer en ligne de compte. Donc, si on continue à pousser, quand on pousse un gibier, même si on s'en rend pas compte parce qu'on est sous l'adrénaline, on le pousse une fois, deux fois, trois fois, le gibier, après deux fois, là, lui, il devient très en mode survie. Puis là, il peut courir un kilomètre avant d'arrêter. Donc là, autant nous, un kilomètre, c'est pas long avec le chien, mais vous, les chasseurs, quand vous allez aller chercher votre gibier qui a fait un kilomètre de plus que ce qu'on aurait pu faire, s'il est allé dans le bas d'une coulée, c'est pour agrémenter la période de recherche. Si tout le monde fait son petit bout, puis ça fait partie de faudrait que ça fasse partie de la routine de chasse. Tu sais, faire ce qu'on vient de dire là, c'est pas ben ben long, puis ça fait partie de notre plaisir. On analyse, on a nos indices, tout ça, parfait, on arrive, le gibier est là, super, le gibier est pas là, oh, là, c'est là qu'on a peut-être besoin d'un conducteur.
Absolument.
Donc, avoir en main les noms des conducteurs de chien de sang, pas d'avoir juste ça, les avoir dans notre téléphone, 1, 2, 3, puis vous allez voir, là, on est rendu en 2020, ça fait 12 ans, donc les conducteurs sont en demande beaucoup. On en forme à chaque année de plus en plus. Mais soyez pas surtout fâchés. Si vous appelez un conducteur puis il répond pas, dites-vous que c'est parce qu'il est en train d'aider un autre chasseur, là, tu sais. Mais vous devez laisser le message à tous les conducteurs que vous tentez d'appeler, puis à un moment donné, un de ceux-là va vous rappeler. Dans le fond, là, les statistiques générales sont environ à 40 %. Donc, il y a 60 % des gibiers qu'on ne récupère pas. Moi, je dis, on les met pas dans la boîte du pick-up du chasseur, mais on les localise, mais on est capable d'analyser soit il est pas mortel. Par contre, avec les années puis l'expérience, le taux de récupération, quand les gens ont vraiment fait ce que j'ai dit puis ont pas poussé le gibier et tout ça, on est plus proche du 50-60 %, tu sais, dépendamment. Wow, dans des territoires structurés, quand les chasseurs sont bien renseignés, ben le taux monte parce que les gens ont le réflexe d'appeler systématiquement. Dans mon 40 %, c'est que c'est pas tout le monde qui appelle dans la population en général.
C'est ça. Ça devrait être un réflexe. Donc, nous, on va en discuter. On va en discuter plus amplement dans une autre chronique, dans une autre entrevue, je devrais dire. Oui. Donc, là-dessus, Chantal, on se rejase.
Parfait. Merci, Guy. Bonne saison.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, on est de retour à l'émission, pas chez Simplement plein air. Oui, vous êtes dans le studio chez Simplement plein air. Mais là, notre prochaine invitée, qui est notre chroniqueur, qui est là depuis maintenant 5 ans, on parle chasse, naturellement. Quand on parle chasse, on en parle avec qui? Eh oui, avec Mme Véronique Lévesque de la maison Buck Hunter. Salut, Véro.
Salut, Guy.
Hey, tu m'as comme un peu surpris. Je t'ai demandé des explications un peu avant qu'on entre en onde. Je voulais pas avoir l'air trop nono. J'ai encore l'air nono, puis je suis pas sûr que je connais pas ça, c'est sûr. Mais du gel pour chevreuil et orignal. Pourquoi du gel? Quand est-ce qu'on sert du gel? On met ça où? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Véro?
Ben, le gel, c'est un produit qui existe depuis toujours. Je vous dirais un peu en même temps que les bâtons d'encens. Quand j'ai commencé à parler des bâtons d'encens, personne non plus connaissait ça. pourtant, le gel, ça fait quand même très, très longtemps que ça existe. Mais cette année, je sais pas, il y a comme une genre
d'intérêt
pour le gel. Ah. Donc, je vais faire une chronique aujourd'hui pour en parler pour le gel chevreuil et orignal. Dans le fond, le gel, il va être utilisé pour faire des souilles ou des grattages. Donc, vous arrivez à un sentier où vous pouvez en mettre, vous pouvez faire des lignes d'odeur aussi directement après les arbres avec, mais on l'utilise surtout dans les souilles puis les grattages et surtout aussi en situation de pluie ou d'humidité. Parce que, comme on dit, le gel, c'est vraiment une gélatine, c'est vraiment une glue, si on veut, mais qui est imbibée d'urine à l'intérieur. Donc, vous allez avoir chevreuil orignal, mâle, femelle. C'est vraiment là les odeurs là, les plus populaires, puisque tout le monde a là habituellement là sur les tablettes. C'est vrai que ça l'avait été oublié, je dirais, avec les années. Pourtant, c'est un produit qui est extrêmement efficace pour garder l'odeur longtemps.
Oui, puis ça, là, c'est un gel-là, c'est un gel, mais c'est dans une chaudière de 5 gallons, 2 gallons, 1 gallon. Comment ça marche?
Non, nous autres, on a deux formats. On a le format qui est 150 grammes ou notre format 40 grammes. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec le format 40 grammes, c'est qu'il y a un pinceau à l'intérieur. Donc, quand tu ouvres le couvert, le pinceau est directement dans le couvert. Donc, si tu veux faire des lignes après les arbres ou si tu veux en mettre dans ton grattage par terre, parce que vu que c'est une gélatine, tu peux pas en verser dans le grattage. C'est vraiment de la gelée. Tu apprends quelque chose pour la prendre. Donc, souvent, il y en a qui vont prendre les branches, mais nous autres, on a directement le pinceau qui est intégré au couvert.
OK. Et puis là, toi, tu prends ça. Là, tu nous as mentionné pour les grattages et puis tout ça. Mais quand est-ce qu'il est le bon temps d'aller mettre ça là, à l'année, juste avant la chasse? Quand est-ce qu'on applique ça, là, ce gel-là? Là?
Bien, tous les produits qui sont faits à base d'urine, moi, je vous dirais de les utiliser le plus proche de la chasse possible, parce que qu'est-ce qu'on va faire avec ces produits-là? On veut vraiment attirer la curiosité du mâle. Donc, si vous mettez ces produits-là à l'année, bien, évidemment, il n'y aura pas plus de curiosité parce qu'il n'y a rien de nouveau, si on veut.
Ouais.
Donc, quand on les utilise, comme on appelait souvent notre produit qui sort beaucoup ces temps-ci, c'est la dernière poudre, parce que c'est un minéraux qui est imbibé d'urine à l'intérieur. Il va être très, très utile pour les personnes qui vont chasser à l'arc bientôt ou ceux-là qui sont allés à l'orignal. Bon, mais là, vous mettez un bond d'odeur différent puis très attractif pour le mâle parce que vous avez de l'urine à l'intérieur. Donc, le gel, ça va être un peu de la même façon. Moi, j'utilise beaucoup mes produits à base d'urine, mettons mes grattages, mes souilles, ces choses-là, quelques jours avant la chasse, parce que c'est bien, bien rare qu'un boc chevreuil ou un boc orignal va faire des grattages pendant 2 semaines de temps, vraiment avant le temps du rut. Là. Tu sais, ça veut dire que
ouais. On
ne parle pas au mois de juillet ni au mois d'août. Là.
Non, c'est ça, c'est vrai. T'as bien raison. Mais moi, on m'a dit que la poudre, la dernière poudre, là, pour l'avoir utilisé, je peux te garantir une chose, ça fonctionne en petit peu pair.
Écoute, la dernière poudre, c'est un produit qui est quand même assez connu, je te dirais, mais pour toutes les personnes qui commencent à l'utiliser, j'ai quelqu'un entre autres, là, j'aurais jamais pensé qu'il ne l'avait pas essayé, pourtant c'est un adepte des produits Bocanteur, puis il m'a dit, Véro, j'avais jamais essayé ça, puis il dit, là, j'ai capoté, là.
Ah oui, c'est
incroyable, là.
Oui, t'es vendu. Une fois que tu l'as essayé, là, c'est sûr et certain que tu vas d'année en année, là, tu vas en reprendre, là, parce que c'est. Moi, j'en revenais pas. Justement, je m'étais pris tard, c'est un nouveau territoire et tout ça. Et puis tu m'avais conseillé justement la dernière poudre, là. Ah, vas-y, fais pas peur. Moi, tu te dis que ouais, ça a porté fruit.
Ah oui, c'est vraiment des bons produits, mais. Si, quand on veut vraiment donner, moi j'appelle ça le coup de grâce, si on veut, à notre gibier pour le faire coller là, c'est vraiment d'y aller avec des produits qui sont imbibés d'urine. Là. C'est un coup gagnant à toutes les fois. Là.
Oui, absolument. Puis, tu sais, on y pense pas. Hein? Des fois, on est un peu, comme je te disais, on vit dans une société de micro-ondes. Tu sais, tout vite, là, c'est comme il faut que ça se fasse là. Et puis, tu vas aller chasser, bon, mais là, tu dis, moi, t'as dit, je suis à la dernière minute, j'ai pas de territoire, je connais pas l'endroit. M'a dit, une des choses à faire, c'est bien ça, ta dernière poudre. Hein?
Oui, ça, c'est un produit, justement, de dernière minute qui est excellent. La dernière poudre, la famille Code Rouge, là, c'est vraiment des produits là, de dernière minute que tu peux utiliser si jamais, comme moi, tu vois, j'étais supposée d'aller au Nouveau-Brunswick, aller guider une de mes amies pendant la chasse à l'orignal, puis malheureusement, ils ont fermé les frontières, donc on ne pourra pas y aller. Mais tu sais, là, il faut que je me trouve un secteur de dernière minute pour l'orignal. Mm-hmm. Donc, je vais aller vraiment avec des produits qui sont très forts, là, aromatisés à l'urine, là, pour voir s'il y a du potentiel dans le secteur. Là.
C'est ça. Puis les gels dont tu nous parles, est-ce que ça serait des bons produits, ça, de dernière minute comme ça?
Ça serait excellent. Je vous dirais que moi, ce que je fais en plus avec mes gels pour les booster, c'est que je vais justement vaporiser 2-3 gouttes d'urine dedans.
Ah, OK.
Pour encore leur donner encore plus de boost. Puis l'urine que je vaporise sur mon gel, ben il va rentrer dans ma gélatine. Donc, je le perds encore beaucoup moins. Fait que souvent, quand je vais faire mes grattages puis mes souilles, puis je vais utiliser mon gel, je vais mettre encore un petit peu plus d'urine dessus pour qu'il absorbe encore plus puis ça dure encore plus longtemps. Si jamais il tombe une pluie durant le matin ou le soir que je suis là, ben je sais que mon gel va quand même conserver mon odeur d'urine.
Oui, effectivement. Là, tu vas l'avoir plus longtemps naturellement. Puis c'est vraiment, là, on le sait que l'odorat, en plus, soit d'un chevreuil ou d'un hérignal, là, est excellent. Merci. Là. Puis faire des lignes d'odeur, là, à ce moment-là, toi, tes lignes d'odeur, là, y a beaucoup d'écoles de pensée là-dessus. Une ligne d'odeur comme ça avec du gel, t'es-tu mû de les mettre à la base des arbres ou peu importe, là, dans le milieu de l'arbre? Ou...
Ben moi, je te dirais que un boc chevreuil puis un boc orignal durant le temps de l'accouplement a toujours le nez à terre, souvent.
Oui, c'est ça.
L'orignal et le chevreuil vont lever la tête pour sentir les phéromones, les hormones que les femelles vont dégager. Mais sinon... Il va souvent avoir le nez à terre pour justement être capable d'aller chercher l'odeur que la femelle va avoir laissée souvent en urinant par terre ou elle a juste dégoûté un peu, si on veut, par terre. Donc, souvent, les mâles vont avoir le nez à terre. Fait que moi, je vais avoir plus tendance à mettre les odeurs par terre là, que dans le milieu des arbres. C'est pas comme quand on va faire une saline le printemps ou l'été, puis on va vaporiser, mettons, du bull slash ou du box slash ou qu'on va envoyer de la poudre volatile dans les airs. On en vaporise un peu partout dans les airs, sur les arbres. Ça, c'est pas grave. Mais pour ce qui est des urines, l'automne, là, moi, je préfère le faire par terre.
Oui, hein, c'est l'idéal parce que finalement, comme tu le dis, il va humer les phéromones, le nez d'un zère, mais le trois quarts du temps, on le voit, le pif complètement en terre. Donc, écoute, Véronique, si on veut plus d'infos, si on veut se procurer les produits, on le fait de quelle façon?
Allez voir notre page Facebook, Boc Hunter, qui est très, très, très à l'affût, très ouverte, très avant-gardiste aussi, si on veut beaucoup de vidéos, beaucoup de photos qu'on met à tous les semaines. On a fait des beaux concours aussi, on va vous donner les gagnants bientôt. Bien sûr, nous, chez Boc Hunter, cette année, on a une augmentation majeure. Je dirais même que c'est notre plus belle année depuis qu'on est là. Donc, des fois, on est un petit peu plus long à répondre à vos questions, mais on va y répondre, bien évidemment. Et je veux prendre peut-être deux secondes aussi pour remercier tous les consommateurs puis toutes les personnes qui se procurent les produits Boc Hunter en très grand nombre et qui les demandent beaucoup aussi cette année. J'ai bien heureuse à croire que c'est parce que tout le monde a des très beaux résultats, mais on veut remercier vraiment tous les chasseurs et chasseuses là, parce que c'est vraiment une très belle année pour nous.
Oui, puis on est certain qu'ils ont des bons résultats. On a les preuves parce que tout le monde pose avec le produit Buck Hunter. Donc, Véronique, nous, ben, on se rejoint la semaine prochaine.
Bon, bien, à la semaine prochaine!
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca
Un commercial Simplement plein air.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.